Nouvelle Vague. Une émission de Marilyn sur le bouquet Grandvillers.
Bienvenue dans Nouvelle Vague, l'émission du cinéma Grandvillers et au-delà. Dans cette huitième émission, Flora vous propose un micro-trottoir à l'occasion de la sortie du dernier film de Clint Eastwood, Le cas Richard Jewell. À l'occasion de la sortie d'un western français, L'État sauvage, Mathieu nous parle de deux westerns de Richard Sarafian dans la Nouveauthèque. Dans la rubrique Bobines et coquillages, on inaugure une série d'entretiens avec des personnalités locales qui ont un lien avec le cinéma. Michael Ankiné s'est prêté au jeu de l'interview et nous parle de western et d'autres films qui l'ont marqué. Bonne émission. Nouvelle Vague.
Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit.
La Nouveauthèque.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Marilyn.
Aujourd'hui, dans le cadre de notre focus western, tu as choisi de nous parler de deux films de Richard Sarafian. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce réalisateur peu connu du grand public?
Oui, bien sûr. Alors Sarafian, effectivement, il est peu connu en dehors des cercles cinéphiles, mais il a quand même réalisé un film culte, Point Limite Zéro, en 1973. Alors l'histoire du film, c'est un vétéran du Vietnam, ancien pilote de course, qui fait le pari qu'il peut rallier Denver à San Francisco, ce qui fait un peu plus de 2000 km à travers des étendues désertiques, en 15 heures au volant d'une voiture de sport. Donc c'est un argument assez mince, qui est mis en scène avec beaucoup d'inspiration par Richard Sarafian. En effet, le film se présente comme un trip expérimental où le héros croise des personnages étranges, symptomatiques de la contre-culture américaine et de la fin de l'illusion hippie. Donc c'est resté, Point Limite Zéro, un film emblématique en fait, du nouvel Hollywood, du cinéma américain des années 70. Et il a connu un certain succès commercial et un succès d'estime. Et puis il a laissé beaucoup d'empreintes dans la contre-culture et la culture au sens large à travers les années 70 et au-delà. Et donc il a permis à Richard Sarafian, qui était jusque-là cantonné aux séries B et au tournage d'épisodes de feuilleton pour la télévision, de mener à bien des projets plus audacieux.
Et c'est ensuite qu'il se lance dans la réalisation de western, c'est ça?
Oui, exactement. En 1971, donc la même année, mais quelques mois après Point Limite Zéro, dont le tournage a duré à peine 28 jours, la Warner lui confie le tournage d'un western, Le Convoi Sauvage. Donc c'est un western, oui, mais un western enneigé, puisque l'action se déroule plutôt dans le Grand Nord que dans le Far West aride. Et on suit un groupe de trappeurs au cours de leur périple à travers une nature hostile. Et un jour, le guide de la troupe, qui s'appelle dans le film Zachary Bass, part en éclaireur et il est attaqué sauvagement par un grizzly. Donc il est grièvement blessé et les autres trappeurs préfèrent l'abandonner à son triste sort plutôt que d'épuiser leurs vivres et leur énergie à le soigner. Donc contre toute attente, le trappeur livré à lui-même va survivre et porté par un désir de vengeance, il va réussir à rattraper ses ex-camarades aventuriers en s'inspirant du mode de vie harmonieux des tribus indiennes avec la nature. Donc peut-être que l'intrigue vous paraît familière. Alors c'est sans doute parce que vous avez vu le remake de ce film, The Revenant d'Alejandro González Iñárritu, un film sorti en 2015 avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Je crois qu'il avait reçu un Oscar d'ailleurs pour ce film. Alors pour ma part, je trouve quand même le film original, donc Le Convoi Sauvage de Sarafian, qui est d'ailleurs adapté de l'histoire vraie d'un trappeur, beaucoup plus réussi, avec un parti pris lyrique, certes, mais jamais exagérément épique, comme on peut le voir dans The Revenant. C'est beaucoup moins empesé, ce n'est pas réduit à la performance survivaliste du héros. Et d'ailleurs, il y a aussi la musique du film, qui est signée par Johnny Harris, un compositeur qui se trouve être le frère de l'acteur britannique Richard Harris, qui joue le rôle principal, qui est très belle. C'est également un atout pour le film. Il y a un motif symphonique formidable, très entraînant, qui rappelle l'avancée chaotique des trappeurs à travers les montagnes.
On va écouter ça.
Thank you.
après Le Convoi sauvage, Sarafian réalise un autre western, Le fantôme de Cat Dancing. C'est un genre un petit peu différent.
Alors oui, c'est un western également, mais un western qui est, on va voir, très différent. Il a été tourné en 1973 et il hybride en fait l'intrigue traditionnelle du western avec la romance. C'est en fait une histoire d'amour entre un hors-la-loi sentimental interprété par Burt Reynolds, qui est alors un acteur très populaire, et une jeune femme de bonne famille qui est témoin malgré elle du braquage d'un convoi postal. Et c'est l'actrice britannique Sarah Miles, vue notamment dans Blow Up d'Antonioni ou La fille de Ryan de David Lean, qui prête ses traits à ce beau personnage féminin. Alors au début, on a droit donc au développement d'un western, d'une intrigue de western spaghetti façon Sergio Leone, avec des personnages de brigands sans foi ni loi, dominés par un héros charismatique et ombrageux, qui kidnappe une jeune femme lunaire, mariée malgré elle à un riche propriétaire terrien. Et très vite, il va y avoir une inclination, un penchant qui se dessine entre Jay, le cow-boy ténébreux donc joué par Burt Reynolds, qui doit protéger à la fois le butin du hold-up et la jeune femme qu'il a pris sous son aile de la prédation de ses partenaires. Et c'est que contrairement à eux, évidemment, Jay n'est pas une brute épaisse ou un jeune chien fou. Il est un peu plus que cela. On comprend assez vite qu'il a eu un passé, une vie honnête marquée par une blessure sentimentale avant de se livrer au banditisme. Et donc la façon dont s'opère le rapprochement entre les deux personnages, donc de Jay et de Catherine, la jeune femme, même si c'est un développement attendu, qu'on devine assez facilement, est assez subtil et émouvante. Et Burt Reynolds et Sarah Miles, donc, qui jouent les deux rôles principaux, livrent une très belle partition et ils forment un couple original et touchant.
C'est un beau film, mais il a mauvaise réputation. Pourquoi ?
Alors, il y a une histoire derrière le film, une histoire du tournage, en fait, qui est assez sordide. En fait, le tournage a été entaché par la mort tragique d'un des protagonistes du film. Il s'appelait David Whiting, c'était l'attaché de presse de Sarah Miles et par ailleurs son amant occasionnel. Donc, à ce jour, sa mort reste irrésolue, en fait. On ne sait pas s'il s'agit d'une overdose suicidaire, puisqu'effectivement, il avait pris beaucoup de drogue, ou d'un assassinat prémédité, parce qu'il a été retrouvé avec des blessures suspectes au visage. Donc il y a eu des soupçons de meurtre qui ont pesé à partir de ce moment sur Sarah Miles, et aussi d'autres membres de l'équipe du film, qui ont dû rapidement, évidemment, être entendus par la justice. Mais ce qui paraît dingue, c'est que le tournage du film n'a pas été interrompu. Et surtout, on ne voit aucune trace à l'écran du climat de tension qui a dû, à partir de ce moment, bien sûr, régner sur le plateau. Et ce qui prouve, si besoin, le professionnalisme de Richard Sarafian. Et dans le livre qui accompagne les deux DVD, c'est un bel objet, donc avec un livre et les deux DVD du film, l'excellent journaliste Philippe Garnier évoque en partie les tenants et les aboutissants de cette affaire, de cette triste affaire, qui coûtera malheureusement leur carrière à Sarah Miles et à Richard Sarafian, qui, à la suite de ce tournage chaotique, va revenir à une forme d'anonymat des studios et tourner des films beaucoup moins intéressants, malheureusement pour lui. Donc effectivement, voilà, c'est un très dommage, il ne méritait pas ce sort funeste. Mais on peut toujours revoir le fantôme de Cat Dancing, donc sans avoir à l'esprit l'anecdote sinistre du tournage. Ça reste un très beau western, emblématique des années 70, avec un romantisme brut, un mélange de mélancolie et de gaieté. Et il répond magnifiquement à l'âpreté du convoi sauvage.
Bien, merci beaucoup Mathieu. Donc on peut retrouver le coffret avec les deux DVD à la médiathèque de Granville. Merci, à bientôt.
À bientôt.
Burt Reynolds. The most exciting star on the screen today. The beautiful and provocative Sarah Miles.
Is that absolutely necessary?
Come on.
You are an arrogant, domineering man.
Burt Reynolds is the man who loved Cat Dancing. Sarah Miles is Catherine, who would do anything for love.
Il nous faudrait un plus gros bateau.
L'étoile de la Grand-Villaise.
Faut une nouvelle cassette.
Bon, Richard, voilà ce qu'on va faire.
Il nous faut un échantillon de voix.
Vous allez dire dans ce téléphone, il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes.
Richard, vous êtes devenu un héros national.
Merci, monsieur. Mais j'ai fait mon travail, c'est tout.
Éloignez-vous de la tour !
On s'intéresse toujours à celui qui a trouvé la bombe, comme à celui qui a trouvé le cadavre.
Joel correspond au profil du poseur de bombes solitaires. Un homme blanc frustré, qui rêve d'être dans la police, qui a envie de devenir un héros.
On publie ça.
Bonjour à tous. Cette semaine, on est allé voir ce que donnait le cas Richard Jewell, le dernier film de Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell et Kathy Bates. Le réalisateur américain, connu pour avoir notamment réalisé Million Dollar Baby ou encore Gran Torino, met cette fois-ci en scène l'histoire vraie de Richard Jewell, un Américain suspecté à tort d'avoir commis un attentat à Atlanta en 1996. On a demandé à quelques personnes ce qu'elles avaient pensé du film à l'issue d'une de ses projections en version originale au Select.
J'admire beaucoup Clint Eastwood. À 90 ans, faire un film comme ça, c'est incroyable. C'est un très très bon film. Tout est bien. L'histoire, les acteurs, la réalisation, bravo. Hein. Mais ici, c'est un bon cinéma. Hein.
Très bon film, bien sûr. Me fait penser un peu à Sully de Clint Eastwood. Ça me rappelle un peu le seul contre tous, comme dans l'autre film où là, quelqu'un est accusé à tort, et je crois dans les deux cas c'est le FBI, si j'ai bonne mémoire. C'est du cinéma américain, donc obligatoirement c'est un peu... dramatisé et un peu en exagéré, mais c'est bien fait. Là, c'est vraiment très bien fait. Je trouve qu'il est même mieux que celui, quoi. Enfin, pour ce genre de film. Quoi.
Par des films de Clint Eastwood, j'aime bien. C'est toujours inspiré d'une histoire réelle. Donc là, voilà, bon, ça nous donne une idée, une triste idée sur quelquefois la police, mais bon.
Piquer une tête.
Le cinéma qui fait plouf.
Bobine et coquillage.
Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Alors je te présente, tu es responsable de l'espace jeune à Granville. Tu es aussi musicien pour le groupe Hot Rod 56. Tu joues de quoi dans ce groupe-là?
Je suis contrebassiste et je chante la moitié des morceaux.
On aura l'occasion de t'écouter, j'imagine, sur le bouquet Granvillais. Et alors moi, je t'ai convié parce que tu es aussi cinéphile. J'ai entendu parler de toi d'abord en tant que cinéphile. C'est comme ça que tu te définirais, cinéphile, cinévore, ciné...
Je dirais un mélange de cinéphage et de cinéphile. Bah, c'est une bonne partie de ma vie quand même, le cinéma. Ouais.
Et il paraît que tu as une collection de DVD assez impressionnante.
Au grand dam de ma famille. Parce que c'est quasiment un pan de mur entier mais dans la salle. Mais oui, j'ai classé en fonction soit des pays ou des styles, ainsi de suite. Mais...
Oui, ils sont classés.
Ouais, j'ai le grand malheur d'être un peu collectionneur aussi là-dessus. Donc, bon.
T'as du mal à t'en séparer.
Voilà.
Alors, on m'a raconté aussi une anecdote, puisque quand tu étais jeune, tu as assisté à un tournage de film. Tu peux nous raconter ?
Oui, donc alors, je dois avoir, je pense, une dizaine d'années, ou 10-12 ans. Ouais. Et à l'époque, Yves Robert était venu tourner la suite de d'un éléphant, ça trompe énormément, c'est-à-dire Nous irons tous au paradis, avec les grands acteurs qui étaient Jean Rochefort, Victor Lanoux, Guy Bedos, Claude Brasseur, et la femme d'Yves Robert, donc Daniel Delorme. Et donc, il y avait une scène où la maman de Guy Bedos, qui était Marthe Villalonga, était enterrée dans le cimetière Notre-Dame, donc, qui se trouve pas très loin du jardin Christian Dior. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que moi, j'habitais pas très loin, et avec mes copains, on avait l'habitude de souvent faire les imbéciles autour de la falaise, le jardin, et ainsi de suite. Donc, un tournage de film, pour nous, c'était énorme, quoi. Et donc, j'étais à Califourchon sur le mur... à regarder plusieurs fois les scènes se faire, avec des figurants Grandvillers en plus. Et chaque fois, dès que j'avais un copain qui arrivait, je lui expliquais tout ce qui se passait. Et à un moment donné, j'ai entendu « Mais il va fermer sa gueule, celui-là !» Et c'était Yves Robert.
En parlant de toi.
Voilà, qui commençait à en avoir un peu marre de m'entendre en fond de scène, quoi, en gros, quoi, du coup. Donc c'était assez rigolo. Ça a brisé ma carrière, et du coup, j'ai fait du cinéma beaucoup plus tard.
T'as été blacklisté, en quelque sorte, et puis t'as attendu. Voilà. Alors, on va continuer sur les souvenirs d'enfance. Ton premier film au cinéma, est-ce que tu t'en souviens ?
Alors, de mémoire, je pense que c'était « Les Sept Mercenaires ». Alors j'ai la chance d'avoir un papa qui est très jeune, parce qu'il m'a eu à 17 ans, et donc qui adorait à l'époque les westerns, et je crois qu'on y avait été, j'étais encore un peu trop jeune pour aller voir ça, et je crois que je l'avais beaucoup embêté. Alors je sais plus si j'étais malade ou que je pleurais tout le temps, donc on était sortis au bout d'un moment, mais ouais, le premier souvenir vraiment, c'est un western, donc Les Sept Mercenaires, pareil, une grosse équipe d'acteurs américains, donc c'était vraiment une grande expérience.
Si ça te dit, on va écouter un petit un extrait de la musique. Le compositeur, c'est Elmer Bernstein, et il a eu un Oscar pour cette musique. Et tu as vu j'imagine plus tard, peut-être, tu as vu Les Sept Samouraïs.
Ah oui, que j'ai en DVD. Et qu'à la limite, je préfère maintenant, dans l'absolu. Ouais. Quand même, Les Sept Samouraïs, ouais, c'était quand même avec Toshiro Mifune, mm-hmm. à l'époque, Mifune, ou je ne sais plus comment mm-hmm. on dit, avec Kurosawa. Mm. Donc, ça c'est. Ouais, le cinéma asiatique, c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, mais dans l'absolu, mais qui finalement des fois a surpassé un certain nombre de choses que j'avais vues, notamment. Donc il faut dire qu'à l'époque, c'est ça, ce film-là, je l'ai vu dans début des années 70, alors qu'il datait de, je crois, de 61 ou un truc comme ça. Mais c'est l'époque où il repassait encore les films au cinéma.
Et c'était à Grandville, tu te souviens ?
Ah oui, c'était au Select. À l'époque, il y avait deux cinémas, il y avait le Casino. Là où il y a l'archipel actuellement, c'était mm-hmm. la salle de cinéma. Et donc, on pouvait. Moi, je me rappelle, ouais, souvent les dimanches après-midi, aller plutôt au casino dans l'absolu.
Parce qu'il y avait une différence de programmation entre les deux salles
Oui, des fois, oui. Et puis ça dépendait. À l'époque, il y avait encore les projectionnistes et ainsi de suite. Des fois, certains avaient amené leurs pattes. Donc, j'ai vu, moi, des fois l'été, pouvoir voir des espèces de cycles. Se taper à l'époque encore. On avait souvent les Midnight Express, Apocalypse Now, ainsi de suite.
T'as eu la chance de les voir en salle.
Ouais.
Alors, sinon, de manière plus générale, comme on est dans la rubrique bobine et coquillage, voilà, je vais faire des petits jeux de mots, hein, petites métaphores. Et donc, je t'avais demandé la dernière fois, est-ce que t'es pour un cinéma plutôt nouvelle vague, un cinéma qui fait des vagues ou. Ou un cinéma plutôt amer, calme ou agité ?
Alors, je t'avais répondu, je crois déjà que je ne suis pas vraiment nouvelle vague. Alors, c'est vrai que je suis. D'où d'ailleurs, une grosse passion pour Audiard, qui n'était pas du tout nouvelle vague non plus. C'est vrai que je crache pas sur Truffaut et ainsi de suite, mais c'est un cinéma que je n'ai pas toujours compris. que je ne comprends toujours pas d'ailleurs. Mais après, j'aime tout. Hein. Franchement, j'aime tous les cinémas qui soient... quand on parlait tout de suite là, du cinéma asiatique ou cinéma Moyen-Orient, Amérique du Sud, et ainsi de suite. La médiathèque m'a beaucoup aidé pour ça, d'ailleurs. Ça, je dois quand même avouer que j'ai découvert plein de choses, notamment quand on parle de cinéma comme ça, cinéma argentin, cinéma de brésilien, Moyen-Orient, et ainsi de suite. Alors souvent, je vais à la médiathèque, j'ai un truc qui me plaît, et après, je le rachète. Parce,
ah
que,
oui.
Parce que ça me plaît, pour l'avoir. Et il y a des choses, des fois, qui sont difficiles à avoir, en plus. Il y a certains films que j'ai pas réussi à retrouver dans les versions... notamment avec au moins avoir quand même la possibilité d'avoir les sous-titres en français ou ainsi de suite.
Et justement, on parle de films étrangers, tu nous emmènerais où si on prenait le large ?
Bah justement, ouais, quand on parlait de films moyen-orientaux et ainsi de suite, c'est vrai qu'il y a tout un cinéma comme ça au Liban, israélien, égyptien, ainsi de suite. Et maintenant, on va où ? Là, ça, c'était un des films. Ou la visite de la fanfare, c'est ce genre de film, là, c'est vraiment des très beaux films, quoi.
Je propose qu'on se mette dans l'ambiance, on va écouter un extrait de la bande originale du film. Et maintenant, on va où ?
Нарежешь, прожаришь, начинишь и запаришь. Помесишь, покрутишь, тут подсыпешь. Яла!
Alors ce film de Nadine Labaki, c'est presque une comédie musicale, enfin en tout cas c'est un feel-good movie.
Feel-good, c'est tragicomique je vais dire.
Oui.
C'est vrai que c'est ça, c'est à la fois, ça démarre déjà d'ailleurs par une scène très poétique, on voit les femmes qui vont au cimetière, donc tout en noir, et qui tout d'un coup esquissent un pas de danse, c'est assez surprenant. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi ? Et en fait, c'est à la fois la tragédie qui se passe là-bas, quoi, c'est-à-dire avec ces fameuses histoires entre les musulmans et les chrétiens, et ainsi de suite. Et donc l'horreur de cette guerre qui n'en finit pas, quoi, en fait. Et à la fois, il y a plein de petites scènes comiques. Alors c'est vrai que la musique, là, on a l'impression d'être même dans un film de Kusturica ou quoi. Mmh. Il y a un côté un peu balkan ou je ne sais quoi, mais et ça pourrait se rapprocher un peu de ces films-là aussi, hein, des films où il y a à la fois le tragique et le comique qui se. Mais c'est vrai, ouais, ce film-là, en fait, les femmes décident de prendre les choses en main. On en marre que les hommes se foutent. Se fassent la guerre juste pour des histoires religieuses et elles inversent leur religion en une nuit pendant que les hommes sont un peu KO là et
ça et, elles les font
donc le lendemain le musulman se réveille à côté d'une chrétienne, c'est sa femme mais elle a tout changé, elle a mis les crucifix ainsi de suite, on l'a juste spoil hein, par contre je suis désolé mais et les musulmans et le contraire quoi, le chrétien se retrouve avec une femme qui tout d'un coup a mis des croissants partout et ainsi de suite et donc les hommes sont complètement désemparés comme quoi la force de la femme hein, c'est quand même c'est elle qui décide parce que justement je vais pas tout raconter mais
non mais tu disais on voit dans la bande annonce la musique c'est la scène justement où les femmes les font boire
oui
et
en
fumer.
Fait ouais, manger des space cakes et ainsi de suite là histoire qui tombent bien tous comme des masses et qui comprennent pas trop ce qui leur arrive. Et le lendemain, c'est vrai que là, il se réveille dans un autre monde, quoi, où tout d'un coup, tout a été inversé. Et c'est vraiment bien trouvé comme idée, quoi. Et c'est pour montrer vraiment la stupidité et le côté absurde de tout ça, quoi. Donc, et les femmes, c'est quand même, quand on dit que c'est l'avenir de l'homme, on se trompe pas, je pense. Hein.
Ben, on va continuer. Ben, là, on était avec un film de deux femmes, on va dire, et là, on va plutôt aller vers un film de bonhomme, entre guillemets. Et puis, je t'avais demandé donc un film bien de chez nous, entre guillemets, enfin voilà, un film français. Donc, tu m'as dit Un singe en hiver.
Ouais.
Pourquoi ?
Bah parce qu'en fait, Gabin, quand je le vois, j'ai l'impression de voir mon grand-père, en fait, mon grand-père maternel, qui avait fait justement, qui a fait une bonne partie de sa vie dans la marine, donc qui a fait son service militaire justement en Cochinchine et ainsi de suite, mais côté marine. Et quand je le vois dans ses excès et ainsi de suite, là, ça m'a rappelé quand même grandement mon grand-père, qui était originaire de Belle-Île-en-Mer. Et puis j'adore Belmondo aussi, et j'adore Audiard, et j'adore Noël Roquevert, enfin voilà tous ces personnages-là, Suzanne Flon, pareil. En plus ça se passe en Normandie, entre guillemets, donc il y a vraiment beaucoup d'attaches, quoi. Et puis c'est une belle histoire. Franchement les dialogues d'Audiard, c'est.
Deux calvas. Sois le bienvenu, Albert. Je me disais toujours, ça peut pas durer. On le reverra un jour. Et t'en voilà, comme au bon vieux temps. Tiens, je me sens 20 ans de moins.
Que qui ?
À toi, tu ferais mieux de t'en tenir là avant que tes Espagnols te reprennent.
Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne ?
Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille.
Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompe dans le train.
Oh.
Oh. Et ce n'est qu'un coup de semonce.
Ah, oh, laissez-moi, hein.
Rentrez-vous tout de suite ou j'appelle les gendarmes.
Ils ont déjà eu affaire à eux ce matin, ils auraient pas dû les relâcher.
Ils laissent les dents, ils sont ronds comme des boules.
Oui, monsieur. Plein comme la mer, en suc et en rebord. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein. Eh ben, ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et gayer vos soirées d'hiver.
Ah. Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous.
Allez. T'as raison, va. On a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon.
Et les calvas, qui c'est qui va les payer ?
Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus.
On méprise. Oh.
C'est le genre de film un peu comme les Tontons Flyers qu'on a vu 15 000 fois. Donc, non, c'est.
Ça marche encore. Mmh. On parlait de Nouvelle Vague tout à l'heure. Là, c'est la génération de. Enfin, deux générations d'acteurs qui se rencontrent. Et,
oui. Et Belmondo a fait partie de Nouvelle Vague.
Oui.
Mais voilà, il a su. Enfin, c'est vraiment. De toute façon, lui, c'est quand même un de nos plus grands acteurs aussi. Donc là, avoir Gabin plus Belmondo. Mais il avait l'intelligence de pouvoir. Et puis. De pouvoir s'adapter à tous ces cinémas-là différents, quoi. Donc,
Et c'est la seule fois qu'ils jouent tous les deux, qu'ils sont réunis à l'écran, Belmondo et Gabin.
Peut-être, oui, sans doute, oui. D'ailleurs, Belmondo qui est venu à la Thalasso de Granville, mine de rien.
Tu l'as rencontré ?
Non, j'ai pas eu cette chance, mais j'aurais bien aimé, parce que franchement... non, c'est... Et puis c'était un beau mec quand même à l'époque.
Oui, sans il faut dire, le dire.
Bon, à l'époque du Magnifique, c'est qu'à de le dire. Oui. Là, non, celui-là, je comprends Jacqueline Bisset quand même.
Tout à fait. Oui, puis c'était aussi un acteur physique, il était cascadeur.
Lui-même, ses cascades. Bon, c'est un acteur à la fois. Il a une élocution qui est. Mais même avec Lelouch, là, le fameux film avec Lelouch, là, Itinéraire d'un enfant gâté, la scène avec Anconina, c'est quand même quelque chose aussi. Hein, c'est... Enfin, en tout cas, il vient quand même d'un cursus classique à un moment donné, donc ça se sent quand même avec les Marielle, avec les Rochefort, et ainsi de suite. Hein. Je crois même que c'est Belmondo qui avait dû donner un coup de pouce à Marielle pour le sortir un peu du théâtre et le faire venir au cinéma dans les années 70. Là. Donc non, ça c'est vraiment des grands acteurs. Respect.
Dans les acteurs français d'aujourd'hui, il y en a qui t'intéressent ?
Bah, j'aime bien Roche Dizem.
Mm-hmm. Mm. Oui.
qui avait vraiment une stature. Cinéma français dernièrement, ouais. Par contre, j'ai bien aimé, ouais, dans les derniers films français vraiment que j'ai bien aimé, au-delà des acteurs, bah, c'est qu'à dire, alors on reparle encore d'Audiard, mais le fils Audiard, Jacques Audiard, là, il, pareil. Il, bah, le fameux western qui est sorti, là, les Frères Sisters, mais même le Un Prophète ou Dipan, là.
Oui, Dipan.
Ouais, c'est, qui est une forme de western quelque part aussi, mais dans la banlieue, quoi, finalement.
Oui.
Mais non, franchement, Audiard, il fait fort aussi. Et j'aime bien les deux, ceux qu'on fait intouchables, là.
Nakache et Toledano.
Je crois que j'ai quasiment tous leurs films aussi, hein, ils sont forts, hein, mine de rien. Et le sens de la fête, par exemple, c'est un film que j'adorais il y a un ou deux ans, là. Ça faisait partie. Il n'y a plus Bacri, par exemple. Pareil. Bacri, j'adore. Bon.
Alors, est-ce qu'il y a un film qui t'a secoué comme un vent de force 10, voire plus?
Alors, il y avait deux, trois films qui m'ont secoué. Mais bon, si on parle western, il y a Le Bon, la Brute et le Truand, qui est vraiment un des summums. Il y a eu des films comme Le Voyage voulant faire aussi, qui m'avait pas mal secoué à l'époque. Et Alien aussi, là, je me rappelle, le premier Alien là, que j'ai vu le mercredi de la sortie. Quoi. Et là, je me rappelle, il y avait tout le lycée qui était là, dans la salle du Sélec. C'était impressionnant. Ouais. Ça, c'est des films. Ouais, bah, enfin, Ridley Scott, tout ça, c'est quand même aussi des grands réalisateurs qui savent raconter des histoires. Même dans les petits films. Ils ont quand même des films mineurs, hein, ces gens-là, mais... Et Alien, personne ne l'a vu venir, en fait, ce truc-là, à l'époque. Mais bon, la boute, enfin, ouais, Sergio Leone, c'est quand même...
Le film est aussi très marquant pour sa musique. En fait, j'ai lu que il mettait le réalisateur Sergio Leone, il mettait la musique sur le plateau, en fait, et que ça a inspiré beaucoup. Enfin, c'est un film qui est aussi un peu chorégraphique.
Ah oui, et puis de toute façon, là, on parle d'un deuxième génie, c'est Ennio Morricone, qui là, pareil, en termes de musique de film, c'est quand même là aussi, c'est difficilement. Enfin, c'est Django Reinhardt de la musique de film, pour moi. Donc, et puis pareil, qui a été capable de faire des musiques de film pour des films complètement entre la mafia, les westerns, des films qui n'ont rien à voir. Ouais, même Le Professionnel, d'ailleurs, avec Belmondo. Mais bon. Mais non, ouais, il est époustouflant, quoi. Et puis, avec en insérant, là, on n'entendait pas encore trop la guitare électrique ou des choses comme ça, quoi. Et des effets de guimbard, des effets métalliques, avec la reverb, il secouait la guitare. Enfin, on sent qu'ils doivent secouer l'ampli pour avoir les effets de. Un grand que j'aimais bien, d'ailleurs, à cette époque-là aussi, c'était François de Roubaix, qui avait fait aussi, pareil, des mélanges de musique électronique et de style plus classique. Hein. Mais Ennio Morricone, ouais, c'est vraiment... la musique du cinéma Paradiso...
Et puis, il y aura ton coup de cœur à la fin de l'interview, ton coup de cœur musical avec...
Il fallait qu'il y ait au moins Ennio Morricone. Hein.
Oui. Ouais,
absolument. Mais pareil, Sergio Leone, c'est quand même... quand on voit le début du bon La Brute et le Truand, je crois qu'il n'y a pas de dialogue avant... peut-être 5 ou 10 minutes, quoi. C'est un truc de fou, quoi. À l'époque, c'était inimaginable, quoi. Et c'est que des gros plans de gueule. Puis, alors, c'est pareil, ils nous en ont trouvé, hein, des gueules, des gros plans sur les yeux, sur les. Et puis les acteurs, là. Enfin, moi, un que j'adore, c'est Eddie Wallach, quoi. C'est...
Oui.
Alors, celui-là, c'est. Mais alors, des sourires, les yeux vicieux et tout ça, là. C'est... Et puis. Non, franchement, ouais, c'est. Peut-être un peu long, parce que c'est souvent...
Ça s'étire.
Ouais, on part sur, des fois... C'est peut-être le bémol, ça, de partir sur 3 heures et demie de film, des fois, c'est... Ouf. Bon, Kurosawa, il faisait pareil, mais...
À voir en salle, du coup, pour être plus pris.
Ouais, ouais.
Donc, le coup de cœur que tu voudrais partager avec nous, c'est The Crisis, d'Ennio Morricone.
Qui est en fait la musique d'un film assez bizarre, qui se passe sur un paquebot. En fait, c'est la légende du pianiste sur l'océan, la version française, mais sinon c'est 1900. L'histoire d'un enfant qui est né en 1900 sur un vieux paquebot, un peu dans l'esprit du Titanic, et ainsi de suite, hein, et qui a été adopté, en fait, qui a été abandonné par sa mère aussitôt à la naissance, et qui a été adopté en fait par l'équipage. Et il aura passé toute sa vie sur ce paquebot. Il a une chance incroyable, c'est qu'il est virtuose, il doit avoir l'oreille absolue, ainsi de suite, et il devient le pianiste attitré, en fait, du paquebot. Et sauf qu'à un moment donné, arrive le dilemme où le paquebot va être détruit, et il va falloir qu'il, pour la première fois de sa vie, il va falloir qu'il mette le pied à terre. Donc, mais par contre, c'est une musique. Alors, pareil, là, c'est encore le génie de New Morricone, c'est qu'il arrive à faire quelque chose de beau avec une dissonance. Parce qu'on va s'apercevoir que le piano, à chaque fois, il y a l'espèce d'accord de piano qui est toujours dissonant, qui revient tout le long du morceau, mais il arrive à faire quelque chose de beau avec ça. Et c'est une belle mélodie qui a été reprise dans un autre film avec Will Smith, qui s'appelait, je crois, Sept Vies ou un truc comme ça. Mais du coup, ça avait été repris et je l'ai revu dans deux, trois documentaires comme ça. C'est vraiment une belle mélodie, quoi. Mais à base de quelque chose au piano qui est quand même pourtant dissonant. Ça qui est rigolo.
Très bien. On va l'écouter. Merci beaucoup, Michael.
Eh ben, merci aussi.
À bientôt. D'avoir écouté Nouvelle Vague. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, Flora, Mathieu et Michael. Vous pouvez nous suivre et nous contacter sur le Facebook du Bouquet Grandvillers. On se retrouve pour le prochain numéro le 12 mars. De belles vagues à tous!
C'était Nouvelle Vague sur le Bouquet Grandvillers.